Père Pierre-Marie Castaños, bonjour, bienvenue sur Radio Maria.
Merci, bonjour Sandra.
Alors, est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs ?
Oui, bien sûr. Donc, je suis prêtre de la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie qui se situe, dont la maison mère se situe à l'abbaye d'Ourscan dans l'Oise, où je suis actuellement. J'ai 61 ans et ça va faire maintenant un peu plus de pratiquement 20 ans où je me dédie au couple d'une manière ou d'une autre, à travers des enseignements avec des prédications de retraite, etc. Et aussi beaucoup d'accompagnement, parce que ça a été quelque chose qui m'a été demandé, d'accompagnement des fiancés vers le mariage, mais aussi d'accompagnement de couple. En 2014, j'ai commencé une formation de thérapeute de couple. Et cette formation de thérapeute de couple m'a donné des outils, je trouve, très intéressants, qui complètent bien notre foi, en tout cas qui s'harmonisent bien avec notre foi. Et à travers cette formation, c'est aussi une manière de rejoindre parfois un public un peu plus large que ceux qui sont directement plus pratiquants.
Alors, vous êtes également l'auteur de deux ouvrages, Est-ce-lui, est-ce-elle, et également Se marier et durer, qui vient de paraître en juin 2020.
Oui. Et donc, ces deux ouvrages sont Est-ce-lui, est-ce-elle, c'est en fait le livre qui correspond à la retraite que j'ai mise en place en 2014. Il y a une intuition qui m'est venue au fur et à mesure des accompagnements que j'avais. Je me suis dit, il manque une étape à l'intérieur de cette préparation au mariage. Il manque une étape, c'est cette étape du discernement. Autant dans la vie sacerdotale ou religieuse, la vie consacrée en général, il y a beaucoup d'étapes qui conduisent à l'engagement définitif, mais nous qui voyons le mariage comme un engagement définitif, il y a très peu d'étapes pour dire pas, et il y a un peu les fiançailles, on peut dire, mais et on sait bien, les fiançailles sont déjà un chemin tracé vers le mariage, et dans des familles peut-être plus classiques, c'est déjà un grand engagement, et rompre ces fiançailles, on sait bien le traumatisme que c'est. Du coup, je me suis dit, il faut absolument une autre étape en amont des fiançailles, de façon à aider à discerner. Et le Saint-Père, dans Amoris Laetitia, en a parlé de cette question du discernement. Et du coup, j'ai commencé à faire des prédications de retraite sur cette question-là, qui ont connu et qui connaissent toujours un vif succès, avec 40-50 couples à chaque retraite, et un accompagnement individualisé avec d'autres couples qui accompagnent, etc. Donc du coup, on sent que c'est un besoin, en tout cas, de aussi lié au fait que... la fragilité des couples est telle que les jeunes hommes, jeunes femmes qui se lancent dans cette aventure amoureuse veulent d'une certaine manière avoir les clés et éviter les écueils. Et ils se disent, mais qu'est-ce qui va faire que nous, on va réussir alors que d'autres ont échoué. Et du coup, est-ce-lui, est-ce-elle, c'est vraiment donner des clés pour discerner par rapport à la personne. Pas tant par rapport à l'appel en tant que tel, vie matrimoniale ou vie consacrée, c'est pas l'objet du livre, mais quand je suis dans une relation amoureuse, quels sont les critères objectifs, subjectifs que je peux avoir qui m'aident à discerner si c'est la personne ou pas. Et du coup, voilà. Donc, et sachant qu'il y a, à ma connaissance, aucun livre sur ce sujet-là. Et voilà, ça c'était quelque chose qui m'est venu. Et puis ensuite, Se marier et durer, c'est autre chose, c'est un livre qui a à voir avec... non seulement la préparation au mariage, mais j'allais dire la vie de couple. C'est un livre d'un interview par un journaliste qui m'interview, donc c'est assez vivant de ce point de vue-là. Je donne beaucoup d'exemples concrets, de même aussi dans le premier ouvrage. Et à travers cette interview, c'est tous les thèmes de la vie matrimoniale, que ce soit déjà comment est-ce qu'on définit l'amour, ensuite la question de la vie de famille, la question du rapport à l'argent, la vie professionnelle, la vie spirituelle, la sexualité, l'accueil de la vie. Voilà, c'est tous ces chapitres qui sont abordés et qui disent vise le fruit de mes 20 ans de travail auprès des couples, d'accompagnement auprès des couples, sachant que là-dessus aussi, c'est bien de peut-être d'avoir plus de pédagogie par rapport à ce que demande l'Église, parce que ce que demande l'Église est assez exigeant. Les piliers du mariage, c'est tout à fait différent de ce que peut véhiculer le monde, qui est plus dans une dimension de jetable, comme dirait le pape François. Eh bien, nous sommes dans un couple durable, et donc être dans un couple durable, ça signifie aussi avoir un certain nombre de lignes directrices pour franchir éventuellement les épreuves. Et comment durer ? Parce que cette question de durée, elle est capitale, parce que là aussi, notre manière de voir la relation amoureuse, de voir le couple en général, dans la lumière de l'Évangile, est différente de la manière du monde. Hein. C'est à un moment donné, il y a quelque chose qu'il faudra traverser, il y a quelque chose qu'il faudra accepter qui n'était pas prévu dès le départ. Et c'est toute la place de la confiance aussi, la confiance dans le Seigneur et la confiance dans l'autre et dans ses propres ressources aussi. Et donc voilà, c'est à travers ce livre, Se marier et durer, c'est cette dimension-là que je veux transmettre.
Alors, intéressons-nous tout d'abord aux jeunes, donc les jeunes qui sont en recherche de discernement ou les jeunes fiancés qui ont projeté de se marier. Est-ce que vous avez noté une évolution depuis 20 ans que vous accompagnez des couples dans les recherches de ces jeunes qui sont déjà engagés avec quelqu'un via les fiançailles ou qui sont en recherche de leur vocation?
Ben oui, j'ai vu en 20 ans, vous imaginez, c'est pratiquement une génération, donc j'ai vu, premièrement, c'est que les formats de jeunes sont très divers et de couples sont très divers, et ça c'est aussi quelque chose qui parfois déstabilise et insécurise un certain nombre de personnes, voire les parents des jeunes qui sont en couple, c'est qu'il n'y a plus de modèle. Oui, il n'y a plus de modèle, on vous dit, mais si je suis avec telle personne de mon milieu, de ma religion, de ceci, de cela, qu'est-ce qui va se passer? Ça va marcher absolument. Et non, on voit des malheureusement autour de nous des personnes qui, entre guillemets, cochaient toutes les cases et qui ont fini par se séparer. Donc c'est vraiment ma conviction, et ça a été ma conviction depuis le départ, c'est plutôt faire du sur-mesure plus que du prêt-à-porter. C'est-à-dire, dans l'accompagnement de ces jeunes-là, c'est vraiment rentrer dans le détail du couple, rentrer dans ce que le couple peut porter, et du coup dans la préparation au mariage que je propose, c'est vraiment ces 8-9 rencontres, mais qu'avec le couple. Et du coup, on peut descendre dans des niveaux de détail auxquels on n'aurait pas accès si c'était une réunion de groupe, par exemple. Et donc ça, j'ai vu clairement l'évolution en 20 ans, l'importance, et là ma formation de thérapeute de couple m'aide beaucoup, l'importance de rentrer dans la dimension aussi psychologique. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de problème de couple, il y a des problèmes de personnes. C'est des personnes qui, à l'intérieur du couple, manifestent un certain nombre de dysfonctionnements, d'attitudes inappropriées. Prenons par exemple la colère, prenons la jalousie. Mais c'est beaucoup plus des difficultés personnelles que des difficultés de couple. C'est des difficultés personnelles qui réagissent à l'intérieur du couple. De même, on pourrait dire, moi qui suis religieux, ça s'applique tout à fait à la vie communautaire. Un frère qui dysfonctionne pour X raisons, c'est souvent des problèmes personnels qui, à l'intérieur de la vie communautaire, rejaillissent. Donc voilà, donc cette évolution, cette variété des couples, cette incertitude aussi, la dimension aussi professionnelle joue son rôle. Vous voyez, on sent, et particulièrement à notre période, l'incertitude professionnelle. Est-ce que je vais pouvoir garder mon travail? Est-ce que je pourrais en avoir un, etc. On sent que tout ça rejaillit dans le couple et que c'est peut-être plus complexe, la vie de couple est peut-être plus complexe à aborder maintenant qu'il y a 20 ans.
Alors, c'est vrai qu'avec la multiplication des divorces, les enfants de divorcés peuvent se poser effectivement la question, Est-ce que je ne vais pas répéter le schéma de mes parents? Est-ce que, justement, qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes qui ont leurs parents qui ont divorcé et qui ont peur de répéter un schéma familial?
Oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est de dire, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. C'est vos parents ont échoué et parfois même divorce dans l'année qui près juste antérieure au mariage ou postérieure, voilà, ou attendent parfois le mariage de leur enfant pour se séparer. J'ai eu un certain nombre de cas comme ça. Ça bouleverse énormément. Il n'y a pas de fatalité dans le sens où ça peut être aussi l'effet inverse d'avoir subi jeune, des traumatismes liés à la séparation des parents, fait que soi-même, on ne veut pas. Et du coup, il y a une vraie volonté. Et ça nous renvoie à une autre chose, c'est que aimer, c'est vouloir, vouloir, c'est aimer. Et c'est là, c'est la différence avec la manière de concevoir du monde. Ben, si je ressens plus, j'ai plus d'émotions, je t'aime plus. Ben non. Ça, vous voyez, ça va pas du tout. Ça va pas parce que c'est pas ça qui fait la qualité de l'amour. La qualité de l'amour, c'est la volonté partagée, réciproque, de rendre l'autre heureux et que l'autre veuille me rendre heureux. Et du coup, ça veut dire que ça dépend de moi. Ce n'est pas une fatalité, c'est pas juste une bonne étoile ou la chance ou que sais-je. Ou parfois, vous entendez, oui, mais l'amour dure 3 ans. Ou ça ne veut rien dire, vous voyez. Ou c'est lié à un cycle biologique ou que sais-je. Mais non. C'est un vouloir, c'est une décision. Et donc, aux enfants qui ont des parents divorcés, je leur dis, ne perdez pas courage, prenez peut-être plus d'éléments et pour vous accompagner, de soutien, relisez votre histoire. Votre histoire, elle a certainement laissé des traces. Quant, par exemple, au manque de confiance que vous pouvez avoir envers votre futur conjoint, une sorte de méfiance, vous avez vu, oui, mais si c'est comme pour mes parents, etc. Ou alors aussi quand un couple... un des membres du couple dont les parents sont séparés et l'autre non. Comment est-ce que les parents de celui ou celle qui sont toujours ensemble vont pouvoir rentrer en contact avec les parents séparés du futur conjoint? Vous voyez, donc c'est plus complexe de fait parce qu'il faut rassembler. Il y a des gens qui se rassemblent à l'occasion du mariage qui ne se rassemblent jamais et qui ne sont peut-être pas vus depuis 10 ou 15 ans. Vous voyez, donc et se rassemble en plus pour parler, je veux dire, gros sous d'une certaine manière, parce que ça fait partie aussi de la réalité du mariage, que les questions financières. Et donc, à travers ça, ces questions financières, voilà, on touche des points délicats. Est-ce que la pension alimentaire a été versée? Est-ce que tu me dois encore de l'argent, etc. Voilà. Il y a des tas de choses, si vous voulez, qui émergent à l'occasion des mariages et qui ne dépendent pas du couple lui-même, mais qui sont au niveau au-dessus, au niveau des parents, et qu'il est intéressant de travailler. En tout cas, on ne fait pas, on peut pas faire on peut pas sauter à pieds joints sur la relecture de sa propre expérience. Et en quoi cette séparation des parents a pu positivement, parce que c'est pas forcément négativement, mais a pu positivement me mettre en chemin en me disant, moi je me battrai pour mon couple et je prendrai les moyens qu'il faut, ou alors aussi a pu laisser des traces et me fragiliser.
Alors, vous disiez ce qu'on entend effectivement dans le monde, l'amour dure 3 ans, mais est-ce que c'est pas une confusion de la société entre l'amour et le sentiment amoureux?
Oui, bien sûr que l'amour et le sentiment amoureux, c'est pas pareil. Je peux avoir des... On sait très bien qu'au début d'une relation, etc., tout bouge à l'intérieur, être aimé par quelqu'un, ça produit des émotions. Mais ça, c'est le sentiment amoureux. Mais le sentiment amoureux n'est pas au rendez-vous tout le temps. C'est-à-dire, où il se transforme, il prend une autre forme. Mais en tout cas, ce n'est pas les émotions, mon niveau d'émotion qui dit ma qualité de l'amour. Et ça, je pense que c'est important que les auditeurs en prennent conscience et que tous ceux qui vous écoutent puissent réfléchir là-dessus. C'est parce qu'on est tellement dans un monde, dans une forme de dérive émotionnelle en général, pas que pour des questions de couple, hein, même au niveau de la justice, etc. Du coup, c'est des faits divers qui emportent des choses. On joue beaucoup sur les émotions, etc. Non, je suis persuadé que tout mariage d'amour est un mariage de raison. C'est-à-dire que quelle est la place de l'intelligence à l'intérieur même de ce cheminement de couple. Hein, je me souviens de cette femme qui disait, il y a 15 ans, je me suis mariée avec mon mari, pour telle et telle raison, c'est les mêmes raisons qui vont faire que je suis avec lui aujourd'hui, je resterai avec lui. Et de ne pas mettre entre parenthèses la place de l'intelligence. Comme on met beaucoup, on survalorise la dimension émotionnelle, et au contraire, on minore la dimension intellectuelle, la dimension du rationnel dans l'amour. De dire, voilà, quelles sont les raisons, et écrivez-moi sur un papier les raisons qui vous poussent à choisir telle ou telle personne pour construire votre couple. Et donc, du coup, c'est d'autant plus important que je suis convaincu qu'il faut, pour construire un couple stable, il y a l'importance de la communion des intelligences, vous voyez. La communion des intelligences va faire que l'autre perçoit le réel de la même manière que moi. Et en tout cas, on se comprend. J'ai pas besoin, par exemple, d'expliquer les blagues à l'autre, parce que s'il faut que vous expliquiez les blagues à l'autre, ça risque d'être compliqué, vous voyez. Donc, c'est la communion des intelligences qui fait qu'on envisage choses et personnes de la même manière. Donc, oui, c'est important de dire que l'amour n'est pas le sentiment amoureux, c'est bien plus fort que ça.
Alors, si vous me permettez une petite parenthèse avec la vie spirituelle, est-ce que, justement, cette recherche de l'émotion, quand on est nouveau converti, par exemple, on ressent des choses en priant, en allant devant le Saint-Sacrement, à la messe, et puis ces sensations s'estompent et on a l'impression d'avoir perdu la foi. Est-ce que finalement, c'est pas le même mécanisme ?
Tout à fait, Sandra. C'est exactement le même mécanisme. Vous avez bien raison de faire la comparaison. Et le lien avec Dieu, c'est le lien avec le bien-aimé, le cantique des cantiques. La comparaison a été faite déjà dans la Bible et puis par les auteurs spirituels. Oui, bien sûr, c'est des personnes qui se convertissent. Du coup, il y a des consolations dans la prière, une facilité à se. Mais c'est pas ça qui fait le cœur de la vie de foi. N'oubliez pas que la foi, elle élève l'intelligence à une réalité qui n'est pas accessible aux cinq sens. C'est ça la foi. Quand je dis « Amen » quand je vais communier, je dis « c'est vrai ». C'est pas, je le ressens. Chaque fois qu'on communie, on ne ressent pas fort. Et donc, du coup, il y a des personnes qui sont perdues parce qu'à un moment donné, ils disent, j'étais très consolé, j'allais à la prière en courant tellement ça me manquait, etc. Et puis aujourd'hui, je ne ressens plus rien. Mais ça tombe bien parce que ce n'est pas du tout ce qui fait le baromètre de la foi. Et il en va de même au niveau de la vie de couple. Vous voyez, c'est d'où l'importance de se former. En tout cas, au niveau de la vie de foi, l'importance de se former pour pouvoir avoir accès justement à quelque chose de plus profond et de plus stable.
Alors, nous avons parlé des jeunes en recherche de discernement et des jeunes fiancés. Parlons maintenant des couples déjà mariés que vous accompagnez. De la même manière, est-ce que vous avez noté, depuis que vous accompagnez des couples, une évolution dans les problèmes rencontrés ?
Alors, cette évolution, elle est de plusieurs ordres, j'allais dire. Premièrement, dans la demande de transmission et la recherche de transmission. Les couples, je pense, là, ce sont des couples vraiment qui sont enracinés dans la foi, ce qui n'est pas toujours le cas des couples que j'accompagne vers le mariage, mais les couples que je suis ensuite, une fois mariés et qui sont déjà parents, se posent la question de la transmission. Transmettre, comment transmettre ? Et ils se sentent certainement plus dépourvu dans ces questions-là que la société est très sécularisée, si vous voulez. Et ils sentent qu'ils sont une minorité d'une certaine manière. Ils se sentent en minorité, ils sentent que cette question de transmission de la foi à leurs enfants, comme couple, ils vont vouloir trouver des points, des relais sur lesquels s'appuyer, de façon à pouvoir aussi permettre l'expérience du Seigneur à leurs propres enfants. Alors ça, c'est une question qui est assez forte chez des couples chrétiens, justement, qui sont plus insécurisés de ce point de vue-là. Et puis aussi, comme couple, ils voient autour d'eux, malheureusement, des séparations dans leurs amis. Et ils disent, on s'est mariés la même année, et puis voilà, il y en a qui... Et du coup, ils se disent, mais qu'est-ce qui va faire que nous, on va réussir là où d'autres ont échoué? Et du coup, ça m'amène à une conviction très, 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 très forte que j'ai. C'est le temps donné au couple en dehors des enfants. Qu'est-ce que vous vous donnez comme temps à vous deux ? Qu'est-ce que vous avez ritualisé comme lieu de rencontre de façon à pouvoir aussi vous ressourcer chacun à l'occasion d'un repas chaque semaine, un week-end tous les trimestres, un week-end en amoureux, vous voyez, de même une semaine que je peux prendre uniquement à deux. Donc ces questions-là sont primordiales pour pouvoir durer et pour pouvoir traverser des épreuves de la vie.
Alors, justement, concrètement, comment mettre en place ce temps juste pour le couple quand il y a les enfants parfois en bas âge qui demandent de l'attention? Est-ce que les parents, dans ce cas-là, le couple, doit se reposer sur des grands-parents pour garder les enfants afin de pouvoir partir?
Alors,
et lorsque ça n'est pas possible, parce que parfois les grands-parents sont loin ou ne sont pas en état d'accueillir les petits-enfants, quels conseils vous pouvez donner à ces couples qui ont du mal à trouver justement des temps juste à eux?
Alors, je pense que c'est une question qui se travaille dès la préparation au mariage. Est-ce que vous avez déjà, dans votre préparation au mariage, quand vous étiez fiancé, est-ce que vous avez pris ces temps-là privilégiés? Et j'invite les fiancés, parce qu'on peut très bien, comme fiancé, s'étourdir avec beaucoup de rencontres, d'amitié ou de temps en famille, etc., et délaisser le futur conjoint. Donc ça, c'est quelque chose qui se met, c'est rituel. Cette manière de ritualiser des choses, c'est quelque chose qui se met en place depuis le début. Maintenant, après, c'est vrai que la question des enfants, d'où l'importance aussi de former communauté avec d'autres familles. Parce qu'il y a une manière, il y a une sorte de solidarité interfamiliale entre les familles qui veulent vivre aussi la même chose. Et je pense dans une paroisse, par exemple, c'est le lieu aussi de pouvoir se soutenir et de dire on a besoin de ça et de demander est-ce que vous seriez prêt pour un week-end à garder et dispatcher un peu des enfants selon les familles amies qui sont autour de vous. Vous voyez, alors, les grands-parents, évidemment, les grands-parents ont un rôle important. Maintenant, prenez conscience que les grands-parents sont dans une situation très particulière, parce qu'ils sont dans une génération où parfois eux-mêmes ont leurs propres parents encore en vie et qu'ils doivent soutenir. Eux sont près de la retraite, mais sont aux alentours d'une soixantaine d'années. Les enfants se marient, qui ont des jeunes, il y a quatre générations. Et du coup, les grands-parents sont dans une situation aussi qui n'est pas si simple, parce qu'ils sont dans une, il y a beaucoup de choses qui reposent sur eux, et donc c'est important aussi pour eux de trouver des lieux pour refaire leur force. En tout cas, ces questions de temps privilégié en couple, c'est ce qu'on appelle dans les équipes Notre-Dame le devoir de s'asseoir, qui est vraiment quelque chose de central. Et puis aussi la dimension de prière. La dimension de prière en couple qui est de loin, et ça j'ai remarqué, de loin ce qui est peut-être le plus difficile. Que le couple, et là aussi ça se met en place, ça se ritualise assez tôt, que le couple prenne une manière de prier, de se confier au Seigneur, qui s'ouvre à la présence de Dieu qui va au-delà de lui-même, je veux dire, que ce ne soit pas juste le face-à-face de psychologie blessée, vous comprenez, c'est que dans la vie spirituelle, dans la vie de prière en couple, quelque part je ne juge pas l'autre. Je suis comme un pauvre, nous sommes comme des pauvres face au Seigneur et nous voulons nous confier à sa grâce et à sa bénédiction. Et donc du coup, à travers ça, je trouve que c'est important de pouvoir découvrir qu'est-ce qui peut justement dans la vie de prière pourra être des lumières que l'on recevra pour grandir dans sa propre vie de couple.
Oui, la prière ne doit pas être un temps de règlement de compte avec Dieu pour arbitre.
Ah non, la prière c'est l'inverse. La prière, c'est au contraire, c'est merci, pardon, s'il te plaît. Je veux dire, c'est cette prière de l'Alliance qui fait que, au contraire, on s'adresse au Seigneur, on se confie à lui. Ça peut être un temps aussi de réconciliation à l'occasion, hein. Mais cette importance, là aussi, parfois, les couples se découragent parce qu'ils manquent d'espérance. Ils manquent d'espérance parce qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas une vie spirituelle suffisamment ancrée. Parce qu'on est dans un monde sécularisé où Dieu est absent de la société. Et donc, du coup, on se décourage vite parce que forcément, les épreuves arrivent, les épreuves de la vie de couple, les épreuves liées à l'éducation des enfants, les épreuves liées à la vie professionnelle, les épreuves de santé, que sais-je, ou relationnelles à l'intérieur de la famille, c'est bref, des toutes sortes. Mais comment est-ce que je vais traverser l'épreuve? C'est ça qu'ils avaient. Comment je vais durer? C'est pas seul avec mes petits points que je vais durer. Vous voyez, c'est de la main du Seigneur, le couple ensemble, et c'est là où c'est parfois pas facile, le couple ensemble s'accroche et se remet dans les mains du Seigneur pour pouvoir avancer. Vous voyez, et ça je pense que c'est quelque chose qui est capital, et beaucoup se séparent par manque de vie spirituelle, par manque de vie de prière.
Alors, Père Pierre-Marie Castaignos, concernant le mariage, la préparation au mariage, vous avez parlé de la dimension professionnelle. Et le mariage implique l'ouverture à la vie. Est-ce que vous avez rencontré des fiancés qui se posent justement la question d'avoir des enfants dans un monde finalement de plus en plus difficile, où il y a une certaine insécurité professionnelle? Qu'est-ce que vous leur répondez?
Alors, cette question-là, c'est vrai qu'elle est abordée par un certain nombre de couples, hein, qui soit traversent l'un ou l'autre, traversent une période de chômage, etc. Je trouve que, là aussi, comme croyant, je trouve qu'il y a une réponse qui a à voir avec la confiance. Il est demandé pour le mariage à l'Église d'avoir cette ouverture à la vie, d'accueillir la vie, c'est-à-dire que si on ne souhaite pas volontairement avoir des enfants, on ne peut pas se marier à l'Église. Et donc, mais la question matérielle rentre en jeu, c'est vrai, de dire on peut, tout le monde n'est peut-être pas appelé à avoir 6 enfants avec tout ce que ça implique comme dépenses, etc., puis l'énergie que ça demande. Maintenant, je pense que le couple doit ouvrir son... C'est là aussi la dimension spirituelle, d'ouvrir son cœur à quelque chose de plus... Et de dire qu'à l'occasion d'une naissance, il peut y avoir aussi des solidarités familiales, des personnes qui vous voilà, et qui vous permettent aussi de faire ce moment difficile que vous pouvez vivre. Rien ne remplace la confiance, vous voyez, c'est le marqueur de la personne qui est dans une dimension de foi, c'est la question de la confiance, qui n'exclut pas la prudence, évidemment, hein, mais de se dire que cette période peut-être de chômage ou cette insécurité, oui, il y a des gens qui ont eu des enfants en pleine guerre, par exemple, il y a des gens, toute une génération qui est née pendant la dernière guerre mondiale, donc on dit, mais est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir des enfants en temps de guerre? Je trouve qu'il y a parfois un discours qui se développe, qui n'est pas bon, un peu du risque zéro, du principe de précaution, et qui fait qu'on voudrait tout avoir sous contrôle, on voudrait tout avoir à sa main d'une manière ou d'une autre, et que rien ne nous échappe. Non, la vie, par définition, elle nous dépasse. Et donc l'accueil de la vie demande toujours un déplacement intérieur vers quelque chose de plus grand que nous, vers cette transmission à laquelle le couple est appelé. Donc, pour moi, cette question professionnelle, c'est un des éléments, mais combien de fois des personnes qui sont dans une situation favorable financièrement, ben, n'ouvrent pas leur cœur à la vie, vous voyez? Et pourquoi, si c'était le seul critère, pourquoi il y a plus d'enfants dans les pays pauvres que dans les pays riches? C'est-à-dire, plus le pays est riche, moins il a d'enfants. C'est complètement... ça devrait être l'inverse, vous voyez? Donc, je pense que c'est pas forcément corrélé, la question des finances, la question de l'accueil de la vie, c'est beaucoup plus, l'accueil de la vie est beaucoup plus corrélé à l'accueil de l'imprévu, à la confiance et à la remise de soi-même dans les mains de Dieu.
Alors, continuons justement sur l'ouverture à la vie. Il y a également des couples qui découvrent que l'un des deux est stérile. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce qu'il y a une autre manière d'être fertile pour un couple que d'avoir des enfants?
Oui. Alors, n'oubliez pas que le premier enfant de votre couple, c'est l'amour de votre couple. C'est ça, le premier enfant du couple. Il y a des couples qui, bon, parce que la nature parfois est cruelle, ne peuvent pas avoir. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, au contraire, ils désiraient tout leur cœur en avoir, mais ne peuvent pas pour X raisons. Et de dire que la fécondité à laquelle est appelé ce couple-là, elle est d'un autre ordre. Elle est d'un autre ordre. Alors, à travers soit l'adoption, c'est quelque chose aussi qui peut être envisagé, même s'il faut reconnaître que le chemin vers l'adoption est un chemin complexe, et que éduquer des enfants adoptés, c'est beaucoup de courage et beaucoup d'amour, avec aussi beaucoup d'écueils et de difficultés. En tout cas, les témoignages sont là pour le confirmer. Mais aussi, il y a des couples qui, à travers cette stérilité qu'ils découvrent après le mariage, se disent mais où est notre fécondité? Où est-ce que je peux porter du fruit? Et du coup, certains s'engagent dans des ONG et il faut un changement de vie très radical, je veux dire, voire abandonnent leur vie professionnelle, se mettent au service, vous voyez. Et je crois que c'est intéressant de redire qu'il n'y a pas qu'une seule fécondité, même pour le couple qui a des enfants, il n'y a pas qu'une seule fécondité. C'est une des fécondités que les enfants, mais c'est de loin pas la seule.
Alors, vous avez parlé également de la prière du couple et de la transmission de la foi, donc je pense que ça implique également la prière en famille. Donc, est-ce que ça signifie que les couples doivent concilier des temps de prière avec les enfants et des temps de prière juste tous les deux ?
Oui, alors je crois que cette dimension de transmission de la foi aux enfants, elle se fait en donnant les conditions d'une rencontre avec le Seigneur, sachant que la rencontre avec le Seigneur, c'est quelque chose qui dépend de la grâce de Dieu, mais que en tout cas, que dans la famille, il y ait la présence du sacré, vous voyez, que dans la famille, alors à travers des temps de prière en famille, par exemple, il n'y a pas forcément besoin que ce soit long, que ce soit, mais je pense par exemple le bénédicité, évidemment la messe dominicale, des choses comme ça qui, je veux dire, qui des événements comme ça, des temps comme ça au niveau spirituel qui marquent la famille. Et du coup, au moment de Noël, avec la crèche, avec le calendrier de l'Avent, il y a des enfants, les enfants sont très sensibles, très ouverts à la dimension spirituelle. C'est parfois adolescent où c'est plus compliqué à gérer parce qu'ils sont une forme de révolte, ça fait partie d'une étape de construction d'eux-mêmes aussi. Mais, et d'où à l'adolescence, je le dis aussi, l'importance de donner à des amis qui eux-mêmes sont dans une dimension de foi, hein, et qui ne se sentent pas eux isolés au milieu d'amis qui ne seraient pas croyants. Et donc, oui, il y a une dimension de vie de prière de vie de couple où on confie, mais que c'est en famille qu'il y a par exemple une croix dans la maison. Je suis convaincu que c'est pas forcément des choses longues, mais c'est la transmission de la foi, c'est comme ça infuse dans le cœur de l'enfant. Par des choses toutes simples, le point prière, par encore une fois le bénédicité, par la crèche, par des choses qui vont montrer à l'enfant que l'attachement que les parents ont au Seigneur et à son Église.
Et puis également la participation à la messe dominicale, même lorsque les enfants sont tout petits.
Et oui, bien sûr que oui. Alors c'est tout ça. C'est compliqué parce que du coup, quand il dit tout petit, parfois il pleure, etc. Mais bon, et donc du coup, ils ont le regard noir du voisin parce que surtout c'est pendant l'homélie. Alors tout le monde se retourne et fusille du regard les jeunes parents. Bon, ce qui n'est pas très fraternel parce que ces gens qui fusillent du regard ont eux-mêmes été jeunes parents. Donc du coup, ils ont peut-être oublié cette période-là, maintenant qu'ils sont retraités. Mais voilà, c'est et du coup de s'organiser. Il y a des paroisses qui s'organisent très bien aussi de ce côté-là qui organisent des garderies, qui permettent pendant surtout le temps de l'homélie justement, qui est un temps de nourriture spirituelle pour les fidèles, bah, du coup les enfants sont pris en charge et ensuite rejoignent l'assemblée après l'homélie par exemple. Et donc ouais, je trouve que ces questions d'éveil à la foi aussi jouent, c'est des choses très précieuses dans les paroisses, quand on peut faire un éveil à la foi des tout petits. Là aussi, je pense aussi, bah, évidemment, le baptême. Mais quand on dit, moi j'entends, de cette manière, on révolte, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, ça me choque quand j'entends, oui, mais on le laissera choisir. Vous voyez, on entend parfois ça, mais non, mais les enfants, on les laissera choisir. Non. Non, ça c'est. Vous laissez choisir s'ils vont à l'école ou pas, s'ils parlent une langue ou pas, ou s'ils vont être propres ou pas. Le fait d'être en famille et de former une famille, c'est rentrer dans une transmission. Vous leur transmettez ce qui vous semble, vous, le meilleur. Vous leur transmettez une culture, une langue, et vous leur transmettez une foi. Et donc, la transmettre une foi, c'est bien sûr par les sacrements et l'éducation chrétienne. Et donc, c'est ça qui va progressivement faire que l'enfant s'inscrit justement dans une tradition spirituelle. Comment choisir si on ne connaît pas? Et comment connaître si on n'est pas enseigné? Oui, donc là aussi, parfois, il y a des formes d'incohérence des parents. Quand je rencontre les couples, etc., je dis non, faites attention, sous prétexte d'une liberté, mais c'est une fausse liberté, parce que c'est une liberté d'ignorant. Et comment être la vraie liberté? C'est la personne qui connaît et qui dit j'adhère ou je n'adhère pas. Mais elle connaît au moins le contenu de la foi.
Alors, on a également parlé des grands-parents, les grands-parents qui ne sont pas forcément capables d'aider les parents pour garder les enfants. Mais à l'inverse, il y a aussi des grands-parents envahissants. Quel conseil donnez-vous aux couples qui ont les parents d'un des deux qui sont un peu trop présents?
Un peu trop présents. C'est quelle est la bonne distance? Moi, autant je ne crois pas qu'il faille couper le cordon, parce qu'on n'est jamais ex-fils, ex-fille, mais je pense qu'il est bon d'avoir un cordon de 1000 km, c'est-à-dire qu'un cordon qui vous permette de circuler. Et quand vous sentez des parents qui sont un peu intrusifs dans votre couple, ou intrusifs dans l'éducation que vous voulez donner à vos propres enfants, je pense qu'il y a peut-être une correction à faire en leur disant, mais voilà, de parler, de prendre conscience, de mettre une distance, une plus grande distance dans les rencontres, une plus grande distance parfois géographique. Certains couples s'éloignent de leurs parents parce qu'ils sentent que ça ne les aide pas d'avoir une présence au quotidien avec les grands-parents qui se mêlent un peu de l'intimité de la famille. Voilà, la famille forme un univers en tant que tel, et donc du coup, avec des frontières, et il est bien que les autres qui sont extérieurs à la famille respectent ces frontières. Et donc de rappeler à l'occasion les frontières en disant écoutez non, ceci, en disant, parfois disant non, en disant écoutez non, on ne sera pas avec vous à telle occasion ou à telle autre. Il y a beaucoup il y a certaines familles qui ont ce qu'on appelle des rituels, hein, des rituels familiaux. Bon, bien sûr, autour de Noël, il y a beaucoup de rituels familiaux, mais des rituels pour les vacances, des rituels pour ceci, pour cela, où on se sent un peu obligé de participer à ce moment familial. Mais si le couple a d'autres invitations ou ne se sent pas d'y aller, qu'ils aient eux-mêmes la liberté. Hein. Parce que derrière ça, il y a la question de loyauté qui se joue, vous voyez, et de conflit de loyauté entre ce que je dois à mon conjoint et ce que je dois à mes parents.
Alors, nous avons reçu un SMS d'une auditrice, Monique, qui écrit ceci. « Merci Père pour cette belle émission. Pourriez-vous répéter les titres de vos ouvrages ?»
Alors, c'est deux ouvrages qui ont été publiés aux éditions Salvator. L'année dernière, « Est-ce lui, est-ce elle ?» pour le discernement en amont des fiançailles, en amont du mariage, et un deuxième ouvrage, « Se marier et durer », qui a à voir avec, au contraire, l'étape d'après, le mariage, et la vie de couple dans un amour qui s'inscrit dans le sacrement de mariage.
Alors, merci beaucoup, Père Pierre-Marie Castaignos. Nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter un message pour les auditeurs de Radio Maria?
Ben écoutez, tout d'abord, une grande joie de partager ce moment avec vous, Sandra, avec vous, avec aussi les auditeurs. De leur dire, beaucoup sont en couple ou forment une famille, etc., qu'ils trouvent dans l'Église un lieu qui va les soutenir. Et ça, je pense que c'est capital. Les paroisses sont là, et n'ayez pas peur d'avoir recours, n'ayez pas peur de parce que ce qui va vous soutenir, c'est qui va vous montrer un chemin, qui va vous donner les moyens de réussir votre couple. C'est pas l'air du temps, vous voyez. C'est vraiment cette conviction que l'Église aime les familles, aime les couples, et qu'elle fait tout pour pouvoir contribuer à leur bien et à leur bonheur.
Eh bien, merci beaucoup, Père Pierre-Marie Castaignos, et puis à très bientôt.
À très bientôt, Sandra.
Merci, au revoir.